Vous écoutez France Culture.
Deuxième temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée au Panthéon, à quelques semaines de l'annonce par le président de la République des noms des quatre futurs panthéonisés. Hier, d'ailleurs, nous avons reçu Philippe Bélaval, le président du Centre des Monuments Nationaux, à qui le président de la République avait demandé un rapport, c'était à l'automne dernier, sur le rôle du Panthéon au XIXe siècle. Il a décrit ce que devait être ce bâtiment très célèbre aux grands hommes et aux grandes femmes pour le XXIe siècle. Demain, notre émission d'archives portera sur les cérémonies de panthéonisation, leurs rituels et leur vocabulaire. Jeudi, nous débattrons de la façon dont les autres nations rendent hommage aux grands personnages de leur passé, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Italie ou en Allemagne par exemple. Et aujourd'hui, nous allons nous souvenir qu'en 2007, le président Jacques Chirac avait fait entrer au Panthéon les Justes de France. Qui étaient ces Justes de France? Nous allons nous approcher d'un cas très particulier, celui de la ville de Moissac, ville de Justes, donc dans le Sud-Ouest. Un documentaire qui est signé aujourd'hui Brigitte Stora et Véronique Samuilov, dans lequel on raconte comment justement 500 enfants juifs venus de tous les coins d'Europe ont été recueillis pendant la Seconde Guerre mondiale et ont échappé à la déportation.
Ça, les Moissaguais, quand ils leur ont demandé de garder les gosses, il n'y en a aucun qui a dit non. Ils ont tous dit oui. Et les gosses ont été bien.
Ça s'est fait naturellement. Et j'ai jamais entendu les parents ou l'entourage se glorifier d'avoir fait ça.
Je veux dire que les Justes, pour certains, ce qui a été fait, c'est très naturel.
Les gens ne se sont pas vantés. On se taisait. Mais ces gens nous protégeaient.
Qu'à Moissac, ils ont été heureux.
Moissac, la Juste. Les deux tiers des Juifs de France ont été sauvés pendant la guerre. Parmi eux, une majorité d'enfants, grâce à des filières, des réseaux, des résistants, des héros, mais aussi la complicité de milliers d'anonymes. Moissac, une petite ville du sud-ouest de la France, a abrité une maison d'enfants juifs, dirigée par un couple membre des éclaireurs israélites de France, Chata et Bouli Simon. Près de 500 enfants, âgés de 2 à 18 ans, y ont été recueillis. Tout le monde le savait, personne n'a parlé, tous ont survécu.
Catherine Lewartowski, vous êtes médecin, auteur d'un livre « Les enfants de Moissac ». Vous avez rencontré Chata. Vous dites dans votre prologue « Je voulais raconter l'histoire des enfants de la maison de Moissac pour comprendre comment Chata insuffla tant de vie là où rôdait la mort ».
Je sais que quand j'étais plus jeune, tous les enfants de cette maison, ce qu'on appelle nous les anciens de Moissac, donc les enfants qui ont été sauvés dans cette maison, qui pour la plupart étaient des orphelins, formaient après-guerre une très grande famille. Donc tous ces gens venaient très régulièrement dans la maison de mes parents. Et à chaque fois que je les entendais parler, en fait je ne les entendais pas parler, je les entendais rire. Je me disais, comment c'est possible? C'est ce que j'ai essayé de chercher en faisant l'histoire de la maison. C'est quelle était la force qui leur a été transmise pour qu'ils puissent continuer de rire après-guerre. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Chata pour écrire ce livre, elle m'avait dit « Ma chérie, tu sais bien, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on choisisse la vie. Et on a gagné. »
Jean-Claude Simon, vous avez vécu et grandi dans la maison de Moissac et pour cause, vous êtes le fils de Chata et Bouli Simon. Il fallait être heureux, il fallait être joyeux. Ça faisait partie de l'objectif de
c'était
la maison.
C'était une obligation de la maison. On devait chanter, on faisait le Shabbat, qui était tout à fait extraordinaire pour l'époque. C'est-à-dire que tous les vendredis soirs, on s'habillait, on se lavait, on allait en défilé à travers les rues de Moissac jusqu'aux bains-douches municipaux. C'était une maison juive pendant l'occupation et c'était une maison joyeuse où on n'avait plus de problème parce qu'on était protégé par Boulichata. Voilà. Et c'était comme ça qu'on a vécu. On se baignait. Tout le monde se baignait, toute la maison. Donc on se baignait dans le Tarn, ce qui était pour nous un truc extraordinaire. Il y avait des rochers. Et puis quand on nageait vachement bien, on allait à Tahiti, qui était un espèce de petit rocher au milieu du fleuve. C'était... Il y avait les hirondelles, si vous voulez, qui arrivaient. Et puis il y avait les petits juifs qui allaient à l'eau. Et quand les petits juifs allaient à l'eau, c'est que vraiment la saison était chaude. Et j'avais un copain qui était le fils du chirurgien de Moissac et me disait « On vous enviait pour votre liberté ». Et puis il y avait la chorale. On chantait tout le temps. On a chanté 18 quais du port pendant la guerre, après la guerre. On chantait l'offrande de Beethoven au fond du sombre bois de chêne. Ça, c'était en français. On chantait des chansons hébreux, « Veoulaï », au Kinneret, des choses comme ça. Le chant préféré de Chata, c'était « Lève la tête ». Elle nous le faisait chanter à toute occasion, à tout bout de champ, etc.
Moissac est en zone libre et les éclaireurs israélites de France appartiennent au mouvement scout. Leur idéologie de retour à la terre et de discipline ne contredit pas les valeurs pétainistes. Vichy, dans un premier temps, les tolère, puis finira par les dissoudre en janvier 1943.
Un jour, des fonctionnaires de Vichy souhaitent visiter la maison d'enfants de Moissac.
Catherine Levertovski.
Apprenant qu'une chorale y avait été créée, ils demandèrent, amusés, à entendre ce que les petits juifs pouvaient bien chanter par les temps qui couraient. Garçons et filles, en chemisette et corsage blanc, jupe ou culotte bleue, se rangèrent en bon ordre. Puis, de toute leur voix et de tout leur cœur, ils lancèrent à la face des visiteurs cet appel triomphant. « Lève la tête, peuple d'Israël, que ton chant de fête monte jusqu'au ciel. » Les inspecteurs eurent malgré eux un mouvement de recul, se regardèrent gênés et quittèrent les lieux en marmonnant des compliments. Alors « Lève la tête, peuple d'Israël », c'est un oratorio de Handel.
Dans ses mémoires, il y a un ancien de Moissac qui dit « Le peuple d'Israël oui. », tout le monde croyait que c'était du bouli.
Du bouli, c'est ça, voilà. Personne ne savait que c'était du Handel, tout le monde pensait que c'était du bouli. Et en fait, quand je suis allée rencontrer Chata pour qu'elle me raconte cette histoire, je l'ai vue à plusieurs reprises. À la fin de chacun de nos entretiens, elle était déjà très âgée, elle fermait les yeux et puis elle murmurait quelque chose. Et elle faisait Elle me disait « Tu entends, ma chérie, l'école de musique ?» J'entendais rien, évidemment. « mais si, écoute. »
Tu connais la chanson ?«
Lève la tête. »
Attends.
« Que ton chant de fête monte jusqu'au ciel. » Et petit et grand, on chantait toujours.
Je lui disais, mais Chata, tu avais dans cette maison des enfants qui arrivaient brisés. Ils avaient dû être séparés de leurs parents. Si on pense par exemple aux enfants qui ont été récupérés dans les camps français, Rivesaltes et autres, grâce à des jeunes scouts qui sont allés les chercher pour les extraire des mailles du filet, dont on sait aujourd'hui que c'était des antichambres de la mort, puisque les gens qui étaient dans ces camps ont été ensuite déportés. Donc les scouts, à un moment, vont organiser un réseau pour sortir ces enfants des camps. Donc vous imaginez ces enfants qui se retrouvent dans une maison où ils ne connaissent personne, pas la langue. Roger, confié par son père en 1939, 6 décembre, à notre organisation, a été suivi par nous depuis cette époque. Père déporté en août 1942, aucune attache connue, enfant absolument seul. Bella, mère dépressive depuis que le père et le fils ont été fusillés, fugue nombreuse de l'enfant. Isaac, petit garçon âgé de 7 ans, particulièrement gentil, tendre et affectueux. Au camp de Gurs et Rivesaltes, de mai 40 à avril 42. Père et mère déportés depuis août 42. Aucune nouvelle depuis. Léon, brave petit garçon à encourager. Lui prouver qu'il peut réussir, s'il le veut. Pense aller dans l'agriculture. À envoyer dans un groupe rural ultérieurement. Une sœur devenue folle après arrestation du père et bombardement. Jacques, chez eux, comme chez tant d'autres, c'est la guerre qui a amené le malheur. Le père, victime d'une rafle à son domicile avec ses deux plus jeunes enfants, alors que la mère a réussi à s'enfuir devant les policiers en emmenant Jacques avec elle. Jacques avait 2 ans.
Moi, je vois que ce soit Ruth ou tout ça, ceux qui sont restés nos amis.
Chez monsieur et madame Cross.
Eh bien, il y en a un qui est venu, le dernier, là, comment il appelait Bouchon. Il avait 5 ans. Alors, par exemple, je me rappelle que Ruth, eh bien, elle devait avoir 6 ans ou 7 ans. Et une nuit, elle m'a raconté que Chata était venu me dire, dans le dortoir, elle me dit, je vais te mettre un petit qui pleurait, qui avait peur, qui savait pas d'où, qui tremblait, qui savait pas. Et c'était ce garçon, on le lui a mis dans le lit. Et puis, bon, elle l'a consolé. Voilà, elle savait, elle était très psychologue.
Et donc je demandais à Chata comment elle faisait avec tous ses enfants qui devaient être profondément traumatisés, qui devaient avoir des troubles du sommeil, qui devaient ne plus manger. Et elle m'a répondu, mais ma chérie, on ne parlait pas de ces choses-là. On ne pouvait pas s'arrêter sur ces choses-là. Il fallait que la vie prenne le pas sur tout. D'ailleurs, dans le livre, je rapporte l'histoire de Simra Aaron, qui a 11 ans quand il arrive dans la maison. Il est arrêté avec ses parents. Ils sont dans un bus et son père, en fait, dans un virage, il jette son fils du bus. Les parents seront déportés, bien sûr. Et le garçon va rejoindre Moissac. Et il me dit, quand j'arrive à Moissac, je ne comprends rien au français. On me dit d'aller chez la directrice. Je vais chez la directrice qui me dit « Bonjour, mon chéri ». Maintenant, tu poses tes affaires aux 12, tu t'habilles et tu vas à l'école. Et surtout, tu ne parles pas une autre langue que le français. On était, comme c'était une maison scout, immédiatement affiliée à une troupe, puisque la maison est organisée par troupe. Troupe des castors, la troupe des élans, la troupe des lions, etc. Donc c'était un groupe de 6-7 enfants avec un chef, un sous-chef. Et l'idée, c'était que ces enfants ne soient jamais seuls.
C'est-à-dire c'est cette responsabilité qu'on avait les uns vis-à-vis des autres.
Jean-Claude Simon.
Il y avait le cisonnier, le sous-cisonnier, le chef de patrouille, le sous-chef de patrouille, et ça montait comme ça. Ce qui m'a impressionné rétrospectivement, c'est l'âge des gens. Chata n'avait pas 30 ans. Les chefs, ils avaient 20 ans.
Les petits chefs avaient
Les petits chefs, ils avaient 12 ans, 14 ans. Ça décroissait comme ça.
La maison est scout et c'est un grand nombre de principes, une rigueur très importante et une philosophie de vie. Alors les principes, c'était pour le bien toujours prêt. Et puis il y avait donc cette phrase en dessous qui était une phrase écrite en hébreu. Ne te sépare jamais de ta communauté. Donc des principes, un esprit sain dans un corps sain, et puis l'éducation des jeunes par les jeunes. Alors cette maison, en fait, elle ouvre ses portes en décembre 1939. C'est une maison qui est dirigée par le mouvement des éclaireurs israélites de France, donc un mouvement scout juif, qui, avant-guerre, est un des plus importants mouvements de jeunesse en France. Et en fait, les cadres de ce mouvement vont très tôt avoir l'intuition que la guerre ne va pas épargner la France et qu'il va falloir protéger les jeunes scouts de leur mouvement et les éloigner des grandes villes. Et donc Robert Gamzon, qui est le chef de ce mouvement, va confier à des cadres du mouvement, et en particulier Chata Simon, qui est l'une des héroïnes de cette histoire et la future directrice de la maison d'enfants de Moissac, la mission de tourner en France pour aller, dès l'année 38-39, repérer des lieux. Alors, Chata, quand elle est arrivée dans cette ville de Moissac, a été immédiatement séduite par la lumière de la ville et par le calme et par le Tarn qui s'écoulait tranquillement en ce jour d'été quand elle est arrivée. Eh bien, je crois que quand on découvre cette ville de Moissac, ce sont ces impressions, exactement celles de Chatta, que l'on a quand on arrive et que l'on passe le pont Napoléon, que l'on descend ce petit escalier qui nous amène sur le quai du port. On est submergé par la lumière de cette ville, par la beauté du Tarn. Elle pressent que le calme de cette ville sera tout à fait propice à apaiser les enfants dans ces temps de guerre.
Je l'ai trouvé parce qu'il y a eu des maisons réquisitionnées.
Oui.
Et alors, c'était une maison de 18e siècle.
Oui, je sais, super.
Et alors, j'ai tout de suite dit, c'est là que nous habitons. C'est là que nous habitons.
On a l'impression d'une douceur qui enveloppe.
Oui, oui. Hein? Et la plage était là, exactement. Et Tahiti était là. C'était un rocher où on pouvait s'accrocher et repartir. Et on appelait ça Tahiti.
Et donc l'autre côté, c'était l'Amérique, c'est ça?
L'autre côté, c'est l'Amérique. Saint-Benoît. Oui, il faut passer le pont et... Là, le Tarn est un cru. Marie-Hélène Sartor, que tout le monde appelle Mitou, la fille de la boulangère, nous emmène en promenade à travers sa ville, Moissac.
On va voir la maison ?
Oui.
On arrive avec Madame Sartor sur la place qui s'appelle aujourd'hui la place Chatta et Bouly. On va regarder la plaque. Honneur et reconnaissance à la population de Moissac qui sut protéger, aider et sauver des centaines de jeunes enfants et adolescents juifs pendant les années noires de l'occupation allemande. Honneur et reconnaissance aux femmes et hommes vaillants de cette ville qui ont ouvert leur cœur et leur maison aux persécutés durant la barbarie nazie. Les anciens de Moissac, tous enfants de déportés, 5 décembre 1939, 5 décembre 1950. Et on est enfin devant cette maison, la fameuse maison, au quai du port. Donc elle est restée en état avec ses petites briques rouges, oranges autour des fenêtres, de hautes fenêtres. Il y a 2 étages, il y a des volets en bois, des épais, avec des croisillons, et un heurtoir en bronze. Alors qui habite cette maison maintenant ?
Je ne sais pas.
On ne sait pas ?
Je ne sais pas.
Et si on frappait, vous croyez qu'on va nous ouvrir ? Bonjour monsieur. Et voilà, on était curieux de savoir. C'est vous maintenant qui l'habitez, c'est ça?
C'est nous maintenant qui l'habitons depuis.
Chez monsieur Telade Cabanès.
On est content d'habiter cette maison parce que c'est une maison qui a un caractère. D'abord, elle est très jolie. Et je comprends très bien que Boulevard Simon l'ait prise parce que d'abord, elle avait une facilité d'accès et d'évacuation rapide puisque. Il y avait cette façade, mais de l'autre côté rue de la Régie, il y avait également une autre possibilité d'évacuation. C'était mix, mais attention, hein. Boulay et Chatta rigolaient pas avec la vertu. Hein. Et j'ai bien connu Henri Milstein.
Le chef de la chorale.
Le chef de la chorale. Ensuite, en 1944, je suis parti au maquis. Et là, et quand je suis revenu, il n'y avait pratiquement plus personne ici.
Vous avez été résistant?
J'ai été résistant, ouais. À cette époque-là, j'avais 18 ans. J'ai 89 ans maintenant, hein. Voilà, bon. Et Bouly et Chatta, ça, ils ont fait un travail énorme ici. Mais ce qui est admirable, moi je trouve, c'est la tenue de Moissac. parce que à Moissac, tout le monde le savait. Et il y avait quand même 100 enfants qui étaient à peu près là, 180 en permanence dans cette maison pendant la guerre. Tout le monde le savait et tout le monde les a aidés.
On est fiers d'être moissagais.
Je dirais même on est fiers d'être français. Oui. On est fiers d'être des hommes quand même.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
On les voyait partir en grand, ils allaient au bain-douche que l'on avait, c'était un
monsieur et madame Cruz. Mais vous les entendiez chanter dans la rue?
Oui. Oh là là, oui. Le Shabbat.
Ils ont toujours...
Pour le Shabbat? Oh, ben dis donc, ça c'est une énigme. Moi je voulais y aller, je voulais. Ils nous disaient toujours, on quittait.
Non, ils nous abandonnaient.
Ils nous abandonnaient.
Ils nous abandonnaient. Ah,
oui. Quand il faut aller se préparer pour le Shabbat, Sacha.
Oui, oui.
Et puis après, il se mettait beau.
Il cherchait des draps blancs, je me souviens qu'il cherchait
nappes,
des draps blancs
pour mettre. Oui.
Oui.
Et puis voilà, on ne les voyait pas. Autrement, on était toujours ensemble, bien sûr. Par affinité, quoi. C'était bien organisé, il y avait des fêtes, c'était.
Est-ce que vous étiez scolarisé avec les enfants de la maison?
Oui.
Oui.
Ah oui, on était tous ensemble.
Et vous, Jeannette Cros?
Oui, moi, je suis née en 1932. Ma mère était institutrice. Et j'ai bien connu, de par la présence de Chata, qui amenait des petits-enfants à l'école où était ma mère, je la vois amener des enfants. Bon, j'entendais dans un milieu enseignant, ils étaient quand même tous sur les ponts, parce qu'il y avait dans toutes les classes, il y avait des enfants. Et donc, je savais, moi, toute petite, dont j'avais 5 ans, il y avait des gens qui avaient été brûlés dans des fours et tout ça. Alors, moi, jamais, jamais je n'ai parlé avec les enfants, et après, plus tard, jamais on ne parlait de ça.
Non.
Non, on ne leur demandait pas. Beaucoup étaient orphelins, quand même.
En tout cas, leur famille, c'était le ah Bouy oui, et Chata, c'était
ah
pas
oui,
autre
oui.
chose.
Ça, d'ailleurs, ça,
ils
c'est sûr.
Ça avait une vénération.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, et un respect.
Tous les enfants étaient scolarisés.
Tous. Il faut se dire...
Jean-Claude Simon.
...que le statut des Juifs avait fait que les fonctionnaires juifs avaient été expulsés de la fonction publique. Et ceux qui étaient expulsés, ils étaient expulsés quand ils étaient profs à la Sorbonne, profs à Polytechnique ou profs à Normal Sup. Et ces profs étaient venus à Moissac, ils enseignaient le français, l'histoire, la géo, mais surtout le français. Et il fallait qu'on parle français. Et donc, ceux qui ne parlaient pas français, ils avaient des cours dans la maison, on leur apprenait à parler français, parce que Chata avait compris que ça nous sauverait.
Cheveux dans le vent et tout ruisselant de pluie. Chérie, votre robe collée sur un corps mouillé.
Mitou nous emmène chez sa mère. Celle que l'on appelait la boulangère, Madame Flourens, travaillait en réalité à la poste et le soir aidait à la boulangerie familiale. Elle s'occupait au quotidien des enfants du refuge.
De la tempête qui vous rendait plus belle encore.
Je suis extrêmement fatiguée. J'ai quand même 96 ans. C'est pas mal d'en être là.
Chérie, j'ai fermé les bras.
On fournissait tout le pain pour tout le monde, enfin pour l'ensemble quoi, de la maison.
Comment vous arriviez à fournir autant de pain pour tous ces enfants, avec les tickets de rationnement, avec toutes les difficultés?
Mais là, c'était des problèmes chaque fois que... Bon. D'ailleurs, je vous dis, je revois mon beau-père, prenant le train, bien entendu, partant à la préfecture avec son sac de tickets, et il disait, peut-être vous ne me reverrez pas ce soir, à savoir si vous ne pas me garder.
Il fallait qu'il y ait une correspondance entre la livraison de farine et les tickets, parce que sinon c'était du marché noir. Et ça, à la maison, je crois qu'on n'a jamais fait de marché noir. Hein.
Mais Chata se débrouillait de son côté aussi. Hein. Ses petits avaient faim, ils se dépensaient, et ils mangeaient plus que la ration. Alors, c'était difficile, évidemment.
Vous fournissiez chaque jour du
une
pain.
Une quantité de pain, vous dire la quantité, j'en sais rien, mais.
Pour 200 enfants à peu près?
Oh oui, oh oui, oh oui. Oui, il manquait certainement beaucoup de tickets au contrôle. Et mon père et ma belle-mère ont toujours accepté de t'arranger.
Quand il y avait quelque chose à faire, tant que j'ai entendu dire, moi, hein, quand il y avait quelque chose à faire, hein, ils appelaient pas ça des risques.
Hein. J'avais donné, c'est moi, Marie, mon mari avait donné notre identité au frère de Madame Simon. Et il a été contrôlé, ce monsieur. Il était assez vrai que le château, oui. Et un jour, je rencontre mon professeur de maths qui me dit « Ah tiens, Simon, je vous rencontre bien à propos. Est-ce que votre mari était bien à savoir que le château tel jour ?»« Oui, il était bien à savoir que le château. » Mais au cas où elle me posait l'autre question, il me tardait de rentrer chez moi.
Chez Pierre et Cathy aussi, ils avaient gardé une famille juive.
Qui ?
Chez Pierre et Cathy Gisson. Oui, c'est Pierre qui me l'a raconté. Parce qu'ils se sont jamais vantés d'avoir toute la guerre, ou presque. Tu le savais même pas. Non. Alors que Dieu sait que ce sont des amis intimes. Hein. Non, les gens le gardaient pour eux.
Et est-ce qu'à l'époque, vous saviez quel était le sort qui était réservé à ces enfants?
Oui. Oui. Tu m'as raconté quand vous avez vu partir de chez Poussou, en haut, là. La maman et les enfants. Tu te rappelles pas, maman? Et bon, et alors on les a chargés dans un camion, chargés parce que c'est le mot, hein. Et vous aviez dit tous, on ne les reverra pas.
Est-ce que vous aviez le sentiment à l'époque d'être des résistants, d'être des justes?
Nous?
Vous?
Non, pas du tout. Non, non. Non. Moi, il me semble que j'ai fait.
Oui, mais juste avec un petit. Pas avec un J majusculé, d'avoir fait.
À l'occasion, j'ai fait. Oui, je pense pas, ce qu'il fallait pour les aider, pour. Je pense que dans la famille, on a la conscience tranquille.
Qui c'est qui te... Ça, c'est toi, Dédé. Puis voilà, tu vois, qui c'est qu'il y a? Il y a Jean-Claude devant. Et Ruth, celle que je vous parlais. Et c'est moi, là, à côté. Mm-hmm. Ça, c'est Ruth. Et là, c'est pas le frère de Dany.
Gabriel.
Ouais, voilà, c'est Gabriel.
Ouais,
moi, ça que sera toujours leur maison. Je sais pas de quand ça date, tout ça.
Et tous ces gens ont mis en place comme ça une espèce de chaîne du bien, peut-être, qui a permis
oui.
Au...
Le préfet. Qui a aidé, et puis les employés de la mairie.
Le curé de Montauban aussi.
Oui, Monseigneur Théas.
Oui, Monseigneur Théas. Donc la religion catholique est intervenue aussi.
Est-ce qu'on peut parler d'un humanisme républicain dans cette région?
Ah oui,
oh là là, oui.
Oui, c'était oui. La naissance du radical socialisme ici, c'était rouge. Sa mère, elle avait des photos, on la promenait sur des chars avec le bonnet phrygien. Comprenez ce que je veux dire?
On est dans une France moyenne où tout le monde se connaît.
François Boulet, historien. C'est-à-dire qu'il y a une éthique républicaine?
Tout à fait. Alors là, je crois qu'avec le radicalisme du Sud-Ouest, hein, faut se remettre dans un radicalisme très, très, très enraciné. On se dit, là, il y a une certaine tenue d'une petite ville de France, Moissac, qui vit l'occupation et les affres de l'occupation. Et je trouve que cette histoire-là, en tant qu'historien, hein, historien de la période, nous rend optimiste sur l'attitude des Français, je répète, ordinaires, face à toutes les formes de barbarie, violente ou non, dénonciation qu'il peut y avoir dans cette période. Fin 1942, rapport de police qui dit...
Le rapport de M. Marty donc, dit « La population a fait connaissance avec la population israélite et cohabite avec eux depuis maintenant 2 ans. »
Rien de plus, rien de moins. hein, parce que la loi du silence, à partir de à Moissac, ce n'est pas rien. Plus même qu'ailleurs. J'ai beaucoup travaillé sur le Chambon-sur-Lignon. Eh bien, Moissac, pour moi, c'est un autre Chambon-sur-Lignon.
Vous saviez donc, tout le monde savait qu'il y avait cette maison qui fonctionnait, qu'il y avait des enfants juifs, et personne n'a rien dit.
Non. Ah non. Non, et pourtant, vous savez, il y avait quand même des gens, on disait les Youpins, hein, qui disaient... Enfin, je veux dire qu'ils ne disaient rien.
Ils ne disaient rien parce qu'ils avaient la trouille.
Voilà.
Ce qui était vichyciste ou vichysois.
Voilà.
Ils avaient la trouille.
Pétainiste.
Mais ils savaient que derrière, il y avait les maquisards qui leur auraient fait la peau s'ils avaient dit quoi que ce soit. Voilà. Donc, ils ont été neutres.
On n'en parle jamais.
Ils ont été neutres par obligation.
Ou ignorance.
Alors, quand on dit que Moissac a accueilli les Juifs, c'est vrai. C'est vrai qu'en grosse majorité, on les a accueillis. Mais en fait, on avait les pires crapules ici. Hein. Mon père a été...
Il
a été
arrêté
avec deux autres camarades, alors que c'était une dénonciation de Moissaguet. On l'a su après coup. Donc il n'y avait pas que des âmes blanches, quoi, ici.
Un événement a été extraordinaire dans l'entre-deux-guerres, il ne faut jamais l'oublier, la crue du Tarn, la terrible crue du Tarn du 3 mars 1930. Avec 120 morts et un tiers de la ville à deux tiers de la ville détruite. Et le sénateur-maire d'Altil va être, en 1939, lorsqu'il voit arriver les premiers réfugiés, et notamment ce refuge de la rue qui va être le quai de Juifs, il les accueille parce qu'il y a, en quelque sorte, une dette de ce qu'a fait la France et même le monde pour réparer la ville après cette crue de 1930. Voilà, je crois qu'il y a un moment où, et on le voit bien dans la déclaration du sénateur maire d'Altil du 8 septembre 1939, « Mes chers concitoyens, nous sommes appelés à recevoir 1500 compatriotes, femmes, enfants et hommes d'un certain âge, obligés de fuir les atrocités d'une guerre qu'on nous a imposée. Ils vont arriver à Moissac dans le plus complet dénuement. La municipalité trouvera ou réquisitionnera les logements nécessaires. Je compte sur le patriotisme de la population de Moissac, dont les fils font leur devoir sur la frontière. J'y compte aussi parce que, en 1930, le malheur ayant fondu sur notre ville, la France entière, dans un admirable mouvement de solidarité, lui a envoyé des millions et des millions. Nous avons une dette à payer. Roger Deltil, maire de Moissac, sénateur de Tarn-et-Garonne.
La fameuse inondation,
oui.
Vous en avez des souvenirs
très précis.
Madame Florins.
Oui, ben, l'eau est arrivée brutalement. Toutes les maisons se sont écroulées. C'est ce qui est arrivé à la maison de mes grands-parents, où nous étions, mon frère et moi. Et à un moment donné, nous avons crié tous les deux, la maison s'écroule. Et au même moment, la façade s'est détachée, a été projetée dans la rue. Et nous sommes restés dans l'encadrement des fenêtres, mon frère et moi.
Vous aviez 12 ans ?
Moi, j'avais 12 ans, mon frère en avait 10. Alors, j'ai crié à maman, « Maman, je ne suis pas morte !» Et maman était contente, bien sûr, de m'entendre, mais elle m'a dit, « Où est ton frère ?» Et je lui dis, « Il est là, il se débat, il remue. Si tu peux, attrape-le. » Alors, avec les poutres, je suis allée le trouver. Il a fait comme moi, il s'est accroché. Et nous avons attendu l'arrivée d'un bateau. Voilà mon aventure. Et après...
Oui.
Il y a eu un élan en France,
de
des secours, et là, Paris avait tellement donné qu'il existe à Moissac le hall de Paris, construit avec l'argent que Paris a donné pour Moissac. Il y a eu un élan terrible.
Moissac, sauvé des eaux, va rapidement se reconstruire. Le souvenir de l'inondation, mais aussi de l'aide reçue, est partout présent.
il y a une rue de l'inondation et une rue des sauveteurs. Chacun se souvient de la haute figure de M. Loubradou.
M. Loubradou, c'est une personne qui a, aux inondations de 1930, avait perdu deux enfants. Et ensuite, elle a perdu son fils, le dernier fils qui restait, parce qu'il n'est pas revenu. C'était quelqu'un de très important, qui faisait partie du Parti Socialiste, qui était à ce moment-là la SFIO, qui a été impliqué dans les faits de résistance autour de Moissac. Mon père était aussi résistant et a travaillé avec lui, enfin, dans le cadre de la résistance. Donc c'était un type extrêmement droit et qui
était directeur de l'école.
Il était directeur de l'école qui était à 200 mètres d'ici. Et malheureusement, on est venu pour l'arrêter. Il a fui, les Allemands n'ont pas pu l'attraper. Mais son fils était resté. Mais il est parti en Allemagne, il est mort, il n'est pas revenu. Il est parti en déportation. Quoi. Ils ont pris le fils parce qu'ils n'ont pas trouvé de père.
Alors, il y a tout un réseau,
François Boulet,
qui se met en place en 1942 avec, on l'a dit, hein, monsieur Loubradou, qui est le cégétiste, vous voyez, le directeur d'école cégétiste, mais aussi monsieur Darac, résistant, donc monsieur Lagrive, qui est le socialiste. On trouve aussi la population, je dirais, civile, qui ne fait pas de politique, qui va faire de la résistance. L'avoué Henri Bajon, M. Cassagne-Lépicier, le chef du district, qui va être arrêté et fusillé. M. Richas, hein, Loubradou. Quand je dis que c'est le chef de la résistance, il faut quand même arriver à ce milieu de la résistance. Ce milieu d'une autre autorité, hein, qui prend les rênes d'un pouvoir moral. Cette autre élite qui est en train de se mettre en place. C'est quand même intéressant que M. Loubradou soit le chef de la résistance, avec d'autres, M. Darac. Enfin, bref.
M. Darac qui va distribuer tout simplement les tampons de la mairie et qui sera d'ailleurs reconnu après la guerre juste parmi les nations.
Alors, c'est-à-dire, là, la mairie joue son rôle de protection. Je crois que les maires, entre 40 et 44, par rapport aux refuges dans leur cité, ont un rôle essentiel.
Par exemple, quand Chataille et Bouly apprenaient qu'il y aurait un contrôle d'identité, on risquait une rafle dans la maison, on traversait le pont Napoléon en chantant et on partait en camp. Et bien, c'était des mouvements encore joyeux.
Chata les appelait les camps volants. Les jeunes scouts partaient en camping improvisé, fin prêt pour la survie en forêt, ce qui permettait d'évacuer pour un temps les enfants de la maison. Dans le livre « Le secret d'Edith », Cathy Casser raconte. Edith enfonça un pieu en terre à l'aide d'un marteau. « Enroulé, tiré, croisé », murmura-t-elle à chaque nouvelle corde qu'elle attachait. En peu de temps, toutes les tentes étaient montées et le feu crépitait. Suffisamment vif pour cuisiner, mais assez discret pour ne pas être remarqué de loin.
Après, quand on a été caché, planqué, en 1943, quand la maison a éclaté, on a tous été mis soit chez des particuliers, des agriculteurs, etc. Mais j'étais caché chez des gens. Mais je savais qu'il y avait l'œil de Bouly et Chata qui était sur nous, avec cette sensation d'être protégé par la ville, par les gens. Moissac, c'est une ville où il y a eu un silence, mais c'était un silence volontaire. On ne parlait pas. Et si vous avez vu Madame Flourens, elle vous a dit qu'elle ne parlait pas avec son mari. Elle me voyait tous les jours parce qu'elle était à la poste et moi j'étais cachée chez les gens. Là, pas un mot.
En octobre 1943, face au danger, Chata et Bouly Simon décident d'évacuer la maison. C'est le début du planking. Munis de faux papiers, tous les enfants seront cachés chez des familles alentour. La famille Lassens répondra présent.
À partir de quand vous avez eu Gabriel Cohn-Bendit chez vous? Quand ils ont fermé la maison?
Voilà.
Chez Madame Lassens Kaufmann.
Mais il était comme la famille, hein. Et comme on avait beaucoup de monde, il avait de la distraction. Mais à part ça, il était assez dégourdi. Hein. Comme il parlait l'allemand et qu'il le comprenait très bien, il allait s'amuser devant le bureau des Allemands. Et lui, comme il était blond, avec des jaunes, des yeux bleus, eh bien, ça, il a passé pour un bon arrière. Il jouait aux billes avec un autre copain. Et lui, il faisait attention à ce qu'il disait. Il venait nous le dire, demain il va à tel endroit et tel endroit. Nous, ça nous rendait service.
Vous vous souvenez de la maison de Chataille-Bouly? Vous vous en souvenez?
Oui, parce que je vous dis, c'était des gens exceptionnels.
Pourquoi, comment vos parents ont-ils accepté d'avoir comme ça chez eux un petit garçon?
La mère, du moment qu'on disait que les Allemands allaient les prendre, qu'on allait les mettre dans des cages, ma mère, elle a dit de suite, moi je suis partante, j'en prendrai. Mais ils savaient très bien que c'était des petits juifs. Hein. Ici, dans Moissac, personne n'ignorait. Personne n'a rien dit. Et tout le monde savait très bien que je n'avais pas un petit frère.
Parce que partout, alentour, il y a eu des enfants cachés aussi.
Oui, oui.
Et ces familles ont caché des enfants une nuit, deux nuits. Et nous, on a gardé pendant une nuit un jeune. Je ne savais pas d'où il venait. Et il a dormi avec nous, et mon père m'a dit, mais c'est le fils d'un copain, ne t'inquiète pas. Il ne m'avait même pas dit qu'il s'agissait d'un juif.
C'est où?
Chez Monsieur Policar.
Mais mettez-vous à l'aise, mon frère. La mère Florence, alors ça va?
Et on vient de la voir, la maison de retraite, elle est dans la mairie.
Ah bon?
Donc vous êtes né...
En 34, à Moissac. Là, à la ferme, là, vous avez vu. Mes parents avaient hébergé deux familles juives. On avait déjà eu des réfugiés, disons, de 39-40. On était habitués à héberger des gens dans des situations difficiles. Et alors, ces gens-là, ils étaient là, et nous, on les avait comme des gens qui étaient là, bon, disons, mis à l'abri. Cette famille juive, il y avait les beaux-parents, et le gendre et la fille. Ces gens-là... Ils habitaient au pont de fer, là-bas, en face de la grande maison rouge. Et c'est mon père avec un domestique. Ils sont allés le soir, avec bien sûr, avec une jardinière, un cheval, par le chemin du sable, le chemin de Sainte-Livrade, et ils les ont ramenés ici, voilà. Ça paraissait ordinaire, ça paraissait banal. Bon, ils connaissaient, bien sûr, ils connaissaient pas le milieu agricole. Ils comparaient, par exemple, des petits pois avec du blé ou des petits trucs... Ça nous faisait rigoler, nous, même enfants. Moi, on était des gamins. Mon père, il était conseiller municipal. Ils ont fait le nécessaire pour pouvoir mettre à l'abri toutes les gens qu'ils ont pu. Il y avait Tardis, Cazeneuve, Retournat, qui c'est qu'il y avait encore bien sûr, Darac, qui était secrétaire général. Et ça s'est fait naturellement. Et j'ai jamais entendu... Disons, mes parents ou l'entourage se glorifiaient d'avoir fait ça.
Et cette famille juive, vous les avez revus après?
Non.
Et donc, vous, enfant, vous saviez qu'ils étaient juifs?
Et non.
Non.
Non, et non. Imaginez qu'on allait à l'école, qu'on allait raconter. Ils n'étaient pas naïfs quand même, nos parents. Et, ben, ils étaient conscients du risque qu'ils prenaient et du devoir qu'ils avaient de faire ça. Voilà. Il existait un antisémitisme de fond. Absurde, mais c'est comme ça. Mais que les... Humainement, les gens, ils ont fait le nécessaire, voilà.
Le monde paysan a énormément accueilli, alors qu'il n'était pas spécifiquement dans la résistance en 1940-42. Mais par contre, sa fonction devient vitale. Eh bien là, l'arrière-pays sert peut-être tout autant que le bourg pour disperser ces jeunes gens, qui peuvent ensuite passer du refuge au maquis. Alors, Moissac vit une symbiose économique avec son arrière-pays. Les Moissagais vivent bien, toute proportion gardée, bien entendu. Ils peuvent accueillir matériellement parlant. Et ils peuvent se taire aussi. Et puis, deuxième point, chaque fois qu'il faut parler de monde paysan, il faut voir les aspects matériels. Voir un jeune homme arriver, une jeune fille, c'est une possibilité peut-être d'être aidé quelque peu à la ferme. Si cette personne est énergique. Hein, le problème de la main-d'œuvre dans le monde paysan, et pas qu'à Moissac, hein, se poser. D'autre part, donner des jeunes gens aux Allemands, mais c'est un crime patriotique.
Ça veut dire qu'il y a un compromis entre pragmatisme et éthique.
Oui. Et il est superbe, ce compromis. Parce que l'être humain est ainsi. Il a des aspects matériels, des aspects spirituels qui doivent s'allier.
Pour les lieux de naissance, on avait choisi des mairies qui avaient été bombardées pour qu'on ne puisse pas nous retrouver. Moi, j'étais d'abord née à la tronche, puis à l'aréole. J'étais Bernard Carvet. Lui s'appelait Bernard Kalikstein. Alors ça, c'est au moment où ils sont planqués. Donc, ce sont des histoires d'anciens sur le planking. Alors, Claire, elle dit, « Moi, lorsqu'on m'a planqué au collège, Chata m'a dit de ne pas prendre comme seconde langue l'allemand parce que l'allemand, je le parlais parfaitement. Alors, on aurait pu me découvrir. Alors, tu te rends compte, j'ai fait un an d'espagnol. » Chata était une femme qui n'avait peur de rien, qui a pris des risques considérables. Chata a menacé beaucoup de gens. Elle allait très loin dans ses menaces, tant elle était absolument convaincue qu'il fallait aller faire coûte que coûte tout ce qui était en son pouvoir pour sauver les enfants.
Elle avait une énergie hors du commun.
Oui. Et la première enfant.
Une présence physique aussi,
une autorité.
Une autorité comme Bouly aussi. Ça leur a permis aussi d'être relativement exigeants par rapport aux administrations, par rapport à la mairie. Voilà, ils ne venaient pas avec des doléances, ils venaient avec des exigences. Voilà. Pas pour eux, mais pour les enfants.
Alors, il y a une scène qui est rapportée. Elle, en 1943, il y a une grande réunion à Lyon, je crois, avec tous les cadres du mouvement. Donc là, dans un hôtel, se retrouvent réunis Chata, Bouly, Robert Gamzon et 3-4 autres grands cadres du mouvement. Et en fait, ils vont décider de l'éclatement de la maison et décider de ce qu'on va appeler le planking, c'est-à-dire de toute cette période où il va falloir cacher les enfants sous de fausses identités. Tous sont réunis dans la chambre de Beugy. Beugy, c'est la sœur de Chata, qui a été une héroïne aussi, qui a beaucoup travaillé avec un autre mouvement, qui était le mouvement de Lozé, et qui a sauvé beaucoup d'enfants. Donc tous sont réunis dans la chambre de Beugy quand soudain, deux inspecteurs frappent à la porte. Ils ne mettent pas longtemps à découvrir les faux papiers des illégaux. Pour ceux qui seront arrêtés, c'est la torture sans doute, et de toute façon la déportation. Chata ne perd pas son calme. Elle joue le tout pour le tout. Oui, les papiers sont faux, et nous sommes ici pour organiser le sauvetage de 200 enfants juifs menacés d'arrestation. Faites ce que votre conscience vous dictera, lance-t-elle aux policiers interloqués. Après quelques secondes d'hésitation, ils déchireront la fausse carte d'identité d'Orty, conseilleront au groupe de ne plus se réunir si près de la gare et tourneront les talons. Alors, au moment où la maison doit être dissoute, Bouly Solanel se lève et réclame le silence. Les derniers enfants encore présents dans la maison sont assommés par l'annonce de la dispersion. C'était le dernier Shabbat ensemble, le dernier Shabbat d'octobre 43. Et Bouly interpelle les enfants ainsi. « Quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais seuls. Et de toute façon, rendez-vous tous ici le premier Shabbat après la libération. Et attention à ceux qui seront en retard pour le début de l'office. » lance-t-il dans un dernier sourire.
J'entends encore. Premier Shabbat, vous venez. Et ça m'avait frappé. Et je le disais aux gens chez qui j'étais caché, parce qu'eux étaient sûrs que la guerre allait se terminer. Et pour nous, on vivait là-dedans, c'était pas évident. C'était pas évident. Quand Chata est allée chercher des cartes d'identité, peut-être qu'on vous a raconté, à la préfecture, elle a menacé le préfet en disant « Bientôt, ça va être terminé et vous allez voir si vous ne nous donnez pas des cartes d'identité. » Ils étaient, eux, beaucoup plus optimistes que la majorité des gens. C'était assez étonnant.
À la libération, rendez-vous pour le premier Shabbat à Moissac. La consigne a été entendue. Ce vendredi soir de septembre 44 à Moissac, par autobus, par le train, en autostop, nous arrivons tous de tous les coins de France où nous avons été cachés. J'ai passé ma journée à faire l'aller-retour entre la gare et la maison. Aucun enfant ne manquait au rendez-vous, excepté Courte, se rappelle Laurette. Puis, vers 10h du soir, il fit une entrée triomphale en habit militaire, acclamé par tous les enfants. À pied, en train, à vélo, les plus grands retrouvent seuls le chemin du 18 quai du port. Les chefs rescapés, sortis de leur cachette, partent récupérer les plus petits. Chacun raconte son histoire en entendant des nouvelles du copain. Mais on se tait aussi sur le sort des disparus. Tous savent que de nombreux chefs manquent à l'appel. La guerre est-elle bien finie ? il faut préciser qu'aucun enfant ne sera déporté, mais que de très nombreux chefs du mouvement seront arrêtés et déportés. Et une fois de plus, les chefs du mouvement, c'est aussi tous les jeunes chefs scouts qui ont...
Qui rejoignent la résistance.
Qui rejoignent la résistance, ouais. Et qui ont entre 16 et 25 ans. Donc c'est vraiment des jeunes qui ont sauvé des jeunes.
Je crois qu'il faut voir que Moissac est une ville ordinaire et extraordinaire. On a une petite ville du sud-ouest de la France qui a montré l'humanité, des aspects très humains, convivialité même, une cohabitation exemplaire. Et je pense que s'il y avait un nouveau malheur, il faudrait ouvrir la porte à quelqu'un qui vivrait cela. Voilà, c'est une histoire d'hier qui rend heureux aujourd'hui, pour demain.
Alors, dans les nombreux enfants que j'ai rencontrés, il y a une personne qui me tient à cœur, c'est Laure Schindler-Levin. C'est une des premières enfants qui est arrivée à Moissac. Elle a écrit un magnifique livre qui s'appelle « L'impossible au revoir ». C'est à Moissac que j'ai appris qu'il est en effet possible d'espérer au milieu du désespoir, de vivre au milieu du danger mortel, de créer au milieu de la destruction, de chanter au milieu de la terreur, et surtout, le plus difficile de tout, mais l'essentiel, d'aimer au milieu de la haine.
Avec Jean-Claude Simon, Catherine Lewertowski, auteur de Les enfants de Moissac aux éditions Flammarion, l'historien François Boulet, Monsieur et Madame Krauss, Monsieur Polycarpe, Madame Flourens, Madame Sartor, Madame Kaufmann, merci à l'association Moissac, ville de Juste oubliée et à Annie-Claude Elkaïm, et merci encore au Moissaguet. Prise de son, Laurent César, Frédéric Kérou, mixage, Jean-Louis Deloncle, Moissac, la Juste, un documentaire de Brigitte Stora, réalisé par Véronique Samouilov.
Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Sur ce site, vous pouvez écouter, réécouter l'émission, laisser vos commentaires sur nos pages, ainsi bien évidemment que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore en nous suivant sur le réseau au petit oiseau bleu qui gazouille en ce printemps, en l'occurrence le réseau Twitter. Suite demain de notre série d'émissions consacrée au Panthéon et aux panthéonisations. Et bien demain, dans l'émission d'archives, nous allons évoquer justement ce que sont les cérémonies du Panthéon, leur vocabulaire et leurs rituels, en particulier avec l'historien Patrick Garcia.